coisa na metade do filho. Três pontos. Regra para o bem e guerra.
comme votre Père céleste est parfait. Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Et ça, ça ne se fait pas tout ce qu'on a. C'est très facile. On va voir la cause de la présentation de Dieu. Ça ne se fait pas du tout instantanément, mais ça se fait dans le temps avec l'aide de Dieu. Le vrai sens de soyez parfait, le vrai sens de ce mot-là, c'est devenez parfait. Comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire qu'il veut nous amener à son niveau de caractère pour plus tard nous amener à son niveau d'existence, comme on va voir tout ça. C'est le cheminement que ces appelés ont apporté. C'est de la durée, c'est pas de la télé. Avec son aide, il faut toutefois faire ce qu'il faut. Il ne faut pas faire l'énergie à son chef-d'œuvre. Parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait de soi-même, il ne faut pas retarder, il faut être zélé. La Bible insiste beaucoup qu'on doit être zélé, ne pas compter ce qu'on a fait pour le faire au moment où on vit. Alors, à son âge, il faut faire tout ce qu'il faut pour le développer vers ce Dieu-là, dans cette direction. Exemple. C'est comme quelqu'un qui aurait comme but de devenir membre d'un marché qui est un peu plus important. OK? Ça, c'est pas toujours le journal de la vérité, il peut désirer ça, mais là, il y a tout un plan à parcourir avant d'être membre d'une association complète. Vous avez à prendre des choses de base pour être capable de lire la musique, pour être capable de travailler avec la culture. Il faut développer le talent qu'on a dans le temps, avec la patience, avec la persévérance, avec la profite. Vous voyez, il y a tout ça, un cheminement, et c'est la même chose sur le pacte spirituel. C'est pour ça que je vous donne ce temps d'exemple-là pour qu'on voit pratiquement de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs pourquoi il y a une écrit dans 2 Pierre 3, verset 18, pas besoin de vous le porter, mais dans 2 Pierre 3, verset 18, j'ai d'ailleurs donné un sermon là-dessus dans l'année. La paix est ceci. Vous allez vous rappeler. Croyez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Croyez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Croyez, c'est parce qu'on n'est pas grandi, parce qu'il nous faut grandir, parce qu'il nous faut développer les choses. Oui. C'est ça le danger. Et ça, ça correspond exactement à ce que le Christ lui-même nous a dit. Alors, il n'y a pas besoin de le porter, mais il faut voir dans Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13, c'est ce que le Christ a déclaré. Surtout en parlant du temps de la paix, là où nous sommes, il dit c'est lui qui persévère jusqu'à la fin. C'est pas ce qu'il fait. Il parle du contexte du temps de la paix où nous sommes, où il y a de plus en plus de turbulences pour tout, où il nous faut être justement. Alors, je vous dis, comptez sur lui, marquez avec lui pour avoir sa force. Et à ce moment-là, il nous dit, celui qui persévérera dans l'histoire avec mon âge jusqu'à la fin, celui-là recevra la vie éternelle. Celui-là entrera dans l'immortalité. Donc, ça veut dire une constance dans la fidélité à cette vie. Quand on voit ce qu'il y a à faire. Et dans cette démarche-là, il y a deux pièges à éviter. Deux pièges à éviter. Premièrement, chercher à croître spirituellement par nos propres forces. Chercher à croître spirituellement par nos propres forces. Comme si on faisait ça en nous-mêmes. Dans ce cas-là, si on fait ça de cette façon-là, les gens nous disent que parce qu'il y a des parties d'avance, parce qu'il n'y a aucun humain qui peut, par sa force, développer le caractère que Dieu veut voir développer. Mais il nous faut mettre sa force de ce fait. Si on prend, si on tient, si on fait cela, si on continue dans la même direction. Ça, c'est le premier piège, c'est ce qu'on ne peut pas nous mettre. Et le deuxième piège, à finir, c'est à perfectionner. Viser la perfection, il ne faut pas être perfectionné. Et c'est expliquer la différence qui est importante. Parce que certains ont parfois cette tendance d'user. C'est une tendance d'user. D'être perfectionniste. Sans trop réaliser, mais dans les pieds, aux autres membres politiques, parce qu'ils cherchent à être perfectionnés plutôt qu'à aller vers la perfection de Dieu, avec l'aide de Dieu, parce qu'il y a des amis qui sont incapables. Ça, c'est toute la différence. Je vais devenir commencé le perfectionnisme, pour qu'on sache de quoi il s'agit. Je vais devenir le plus simple. Le perfectionnisme, c'est un souci exagéré, un souci exagéré de vouloir atteindre des résultats capables, parfaits, immédiatement. Ce n'est pas le perfectionnisme. Je répète, il y avait des temps dans notre étudiant. Le perfectionnisme, c'est un souci exagéré de vouloir atteindre des résultats capables, parfaits, immédiatement. Ça, c'est étudier les gens de façon plus simple pour qu'ils comprennent leur action. Vous savez, sur le plan spirituel, le perfectionniste veut la perfection immédiate, veut la perfection magique. Et il se sent obligé de réussir, d'être parfait maintenant, sur le champ. Et c'est ça son problème. Il faut qu'il le réalise pour vraiment entrer dans la perspective de Dieu. Pour aller vers la perfection, sinon pas pour rester toujours dans le perfectionnisme. Parce que c'est pas possible de devenir parfait en tout. C'est absolument impossible. Si vous voulez devenir des bénévoles, si vous voulez apprendre aux gens à faire des beaux mots, c'est vrai, des beaux mots, c'est à la même. Si vous voulez devenir des bénévoles, il va falloir toute une série d'étapes à passer avant de faire un beau mot. Même quand vous allez faire votre univers, ça va être aussi encore longtemps. Alors, oui, c'est la perspective qu'il faut comprendre en conscience de ce mouvement spirituel. Si vous voulez devenir éveillé, il va falloir d'abord vous familiariser avec le roi. Ça va être une différente réponse de voix. Comment ça se travaille? C'est quoi le domaine du bois par exemple? Parce que ça joue un rôle mental dans le travail du bois. Il va falloir connaître les outils, savoir comment les manœuvrer. Apprendre à les manœuvrer, ça se fait dans le temps. Vous allez devoir aussi recevoir d'enseignement. Vous allez devoir aussi recevoir d'enseignement. Et ça aussi, ça se fait dans le temps, et ça se fait de l'âge extérieur. Mais comme c'est une perspective, toutes les étapes qu'on va faire, on a besoin d'avoir de l'âge extérieur. Il va falloir, si vous voulez devenir la bonne éveillée, développer vos talents maintenant par la pratique. À la répétition du travail et en acceptant que vous allez faire des erreurs. Vous allez procéder par effet et erreur. Vous allez procéder par succès et effet. Et c'est pas parce que vous avez parfois des effets que vous remettez en cause le but de devenir égoïste. C'est la même chose spirituellement. C'est pas parce que parfois on a des effets sur le plan spirituel qu'il faut vite abandonner au contraire pour tenir la position de l'égoïste, il manque de temps et continuer. Alors, le perfectionniste pense que ça va l'air, un autre aspect de son fils. Le perfectionniste pense que ça va l'air, ça se mesure à sa performance. Ben oui, parce que c'est ça. C'est le but final. Oui, c'est le but final. Mais pour qui? Il ne peut pas s'appuyer maintenant. Il pense que ça va l'air, ça se mesure à sa performance et qu'il lui faut faire parfaitement le bien et ce qui est bon tout de suite. Pour l'instant, il faut le développer. On ne peut pas tout savoir ce qui est développé de ce coup. C'est important qu'on ait cette notion-là, qu'on ait des choses, parce que ça nous aide à faire le plein de façon moins tendue, moins difficile, et de façon d'oublier la force qu'on a besoin. Dieu ne nous a pas appris tant que nous sommes capables de vérifier. Mais si Dieu nous dit qu'il a appris les choses faire des fois du monde, c'est une expression fondée pour Dieu du monde. Dieu appelle les faibles du monde. C'est ça que c'est moi. Qui que ce soit d'entre nous, faible du monde dans le sens qu'on n'est pas capable nous-mêmes de réussir les choses spirituelles. On a absolument besoin de lui. Donc, Dieu ne nous a pas appelés parce que nous sommes spirituellement. Ou parce que nous sommes bons spirituellement au point de départ. Écoutez, c'est un départ qu'a dit Dieu. La Bible nous dit que nous étions ennemis de Dieu. Ça, c'est pas bon, là. C'est pas un erreur de Dieu, c'est un cœur de Dieu. Parce qu'un ennemi de Dieu, tout le monde, qui que ce soit, même si vous avez été deux fois bon dans votre religion ou quoi que ce soit, vous ne connaissez pas le péché. Et moi non plus. Alors, voyez-vous, même si certains d'entre nous avaient des belles qualités, des bonnes qualités, parce qu'il y a des choses dont on parle, mais ils ne connaissaient pas le péché. Et Dieu ne se croit plus pour ça, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas. Et je crois que on ne peut pas véritablement se faire spirituel à ce moment-là. Même aujourd'hui, croyant que c'est le cœur de Dieu, de vivir ce que nous pardonnons progressivement à Dieu, revient à qui? Pas à nous. Il revient à Dieu seul. Il revient à Dieu seul. Quand on a Dieu reçu, quand on réussit à faire quelque chose sur cette culture, après, ça vient de lui. Je vais vous montrer un passage qui m'a beaucoup encouragé. J'ai compris il y a quelques années, puis j'ai tout souvent allé à Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe, chapitre 26, s'il vous plaît. Je tourne souvent parce que j'en ai besoin. Ésaïe, chapitre 26, et on va lire le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, donc à celui qui est fidèle, celui qui tient à ses engagements, qui tient à ce que Dieu lui a montré, à celui qui est ferme dans ses sentiments, dans certaines versions, c'est celui qui s'appuie sur Dieu, qui vient de Dieu. Parce que lorsqu'on veut réussir, on s'appuie sur Dieu, et on veut dire ferme dans ses engagements. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Oui, il y a une paix de plus à son prix sur Dieu, parce que là, on s'est perdu, parce que ça n'est pas une vie, ça change tout. Alors, ici, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Mais d'après la réponse, la suite de tout ce qu'on va faire, c'est verset 12. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous réussissons à faire spirituellement, c'est Dieu qui l'accomplit pour nous, à travers nous, par sa foi, par son Saint-Esprit. Et on a besoin de souvent venir à ce verset-là, justement, quand on est fait, quand on rencontre des problèmes, quand on est porté à décourager, on peut dire Dieu, toi tu peux tout. Et tu dis que tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais derrière nous et pour nous. Alors, moi, j'ai un obstacle, aide-moi. Je ne suis pas capable. Ça, c'est la recette gagnante que Dieu nous donne. Et je me rappelle, M. Arpachon, il avait passé, je pense que c'est la première fois qu'on est passé aux États-Unis pour la conférence ministérielle, avec M. Arpachon, etc. Et M. Arpachon, on avait été là parce que les ministres qui étaient là, et M. Arpachon, il avait dit, on avait bien surpris le début de sa déclaration, il avait dit, bien sûr, vous qui êtes une image de Dieu, à Dieu pour servir l'Église, ce n'est pas vous qui faites le travail. Ce n'est pas vous, monsieur, les ministres qui faites le travail. Dieu vous a appelé pour faire le travail, mais ce n'est pas vous qui faites le travail. C'est le Christ qui le fait à travers vous. Il a redonné la clé que Dieu vous donne dans Ésaïe 26, verset 12. Ce que nous faisons spirituellement, c'est toi qui l'accomplis pour nous et c'est toi qui l'accomplis dans nous. Comprenez-vous pourquoi c'est tellement important quand on voit la profondeur de ce verset-là. J'en vois plein habituellement demander l'aide de Dieu. Habituellement, la personne perfectionniste n'aime pas demander de l'aide. La personne perfectionniste n'aime pas demander de l'aide. Pourquoi? Parce que ce serait un mot pour les incapables. Ce serait un mot pour les faibles. Quand on demande de l'aide, parce qu'on est faible, parce qu'on est incapable, parce que la personne perfectionniste n'aime pas. Et à ce moment-là, ça baisse son estime de lui-même et ça appelle, dans le même sens qu'on le regrette, parce que quand on ne peut pas demander d'aide, c'est qu'on peut demander d'aide. On ne demande pas d'aide. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut que Dieu soit humilité, sachant que seul on ne peut rien, mais avec lui on peut des choses incroyables, que seul lui est accompli à tout faire. Spirituellement, il y a une étape majeure de notre conversion vers la perfection. Et cette étape-là, c'est de reconnaître justement notre totale dépendance de Dieu. Et notre totale faiblesse en tout spirituellement. Ça, c'est très important. Lorsqu'on reconnaît ça dans Dieu, nous disons, le moment que j'ai fait avec cette personne-là, parce que son cœur est disposé, son cœur est disposé, que la foi est bien. C'est pour ça que je ne me rappellerai pas, mais j'ai le droit d'en faire une fois parce que l'apôtre Paul dit ce que je dis. Je suis tout. Je suis tout par celui qui me fortifie. Encore par le Christ. Paul disait, je suis capable de tout faire spirituellement par le Christ en moi. C'est ça. C'est intéressant parce que le groupe a fait le même constat et est arrivé à la même déclaration, à la même conclusion. Allez dans le champ, l'évangile de Jean, ça fait au fond, s'il vous plaît. On va voir la déclaration du Dieu parce que c'est tellement encourageant pour nous et comme des êtres humains. Quand on entend ces paroles-là, la voix du Christ, qui était devenu totalement un être humain comme nous, j'entends le verset 30. Je ne puis rien faire de moi. C'est pas. Le Christ dit, en tant qu'être humain, le Christ dit, je ne peux rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de ce Christ. Et c'est tout ce que je dis en tant qu'être humain, je peux rien faire de moi-même. J'ai besoin de mon Père. Et c'est pour ça que le Christ priait. Sans ça, il n'aurait pas eu besoin de demander l'aide de son Père, non. Le Christ priait régulièrement pour demander l'aide de son Père. En tant qu'être humain, il en avait besoin. Même s'il était le Fils de Dieu, il était dans la foi humaine et il était totalement humain comme nous. Alors, c'est toute une question pour nous de faire. Si le Christ, Fils de Dieu, est devenu sage, devenu un être humain, avait le besoin de son rapport constant et proche avec son Père, et qu'il le priait chaque jour, et qu'il lui demandait son aide, à ce point que nous autres, vous, et vous, c'est des autres, c'est déjà été dit. Quand on s'est questionné dans son cou, dans ce qu'il demande des choses, il devait sortir en conscience que, parce qu'il n'a pas encore tout réussi parfaitement, Dieu lui retire son âme. Vous voyez, c'est comme si le fait de faire des choses nous gagnait l'amour de Dieu. Je ne m'en pas. Dieu nous a mis le premier, alors qu'on était ennemis. Alors, si on mange le coup pour faire l'autre, il ne nous le voit pas non plus, il suit ton Dieu. Il suit ce mec qu'on a fait. Il ne nous le voit pas non plus. Au contraire, Dieu va nous prendre pas tant. Il devait nous aider à nous sortir encore davantage. Alors, il ne faut pas penser lorsqu'il nous arrive malheureusement de tomber et ça va nous arriver encore que Dieu nous donne moins et qu'il nous contient de nous certainement. C'est une pensée humaine erronée sur laquelle parfois la foi sera justifiée. Parce que Dieu me cherche. Dieu me relâche comme le campagne. Là, je donne une petite phrase qu'on peut trouver plusieurs dans le cours de la vie. Dieu ne se lâche pas de soi-même. C'est ce que je dis à plusieurs autres fois. Pour une raison, parce que Dieu ne se lâche pas de soi-même. Mais nous, on a besoin de se faire appeler pour la conviction de toi, la vie. Pourtant, on n'est pas encore parfait. On est en route vers la perfection. D'où le besoin d'avoir une fidélité envers ce que Dieu nous a montré pour atteindre Dieu à faire campagne. Allez, psaume 103, s'il vous plaît. Psaume 103, on va lire les versets 8 à 11. Et on va voir quel Dieu on parle, quel genre de Dieu il est. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux, il prend patience. Il lance la parole, et il arrive. Et la bonté de Dieu, c'est la bonté qui nous pousse à Dieu la bonté. C'est ça la bonté. Quand on va voir soi-même Dieu comme quelqu'un, la bonté nous pousse à la bonté. Alors, il est miséricordieux, il est dans la faveur, il est compatissant, et oui, en bonté, il ne conteste pas sans cause, il ne fait pas de Dieu non plus, il ne tient pas le résultat de nos fausses pensées. Et là, quand on parle par les autres, toute la vie passée est écrite. Pour lui, comme ça, il n'a pas de il a enlevé ses fougueurs. Il ne gagne pas sa colère à tous. Verset 10, il ne nous plaît pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 11, mais autant les iniquités sont élevées au-dessus de la terre, autant sa volonté est grande pour ceux qui le prennent. Et quand de Dieu, c'est de travailler avec ses croyants, c'est de respecter ce qu'il nous donne. Tournez la page, nous sommes allés au verset 14. On va voir ce que vous voulez dans cet encouragement que Dieu nous donne. Il sait de quoi nous sommes formés. Il n'est pas surpris qu'on soit des êtres humains faibles, incapables de prendre part. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. On n'est pas fort. Même si vous dites, et regardez le verset 17. Mais la bonté de l'Éternel, Dieu a jamais pour ceux qui le font. Pour ceux qui, même s'ils ne sont pas encore parfaits, qui travaillent à le obéir. C'est ça que Dieu a respecté. Il suit une semaine de fête. Et sa miséricorde sont pour les enfants de leurs enfants. Dieu dit pas de la c'est un Dieu de la vie. C'est un temps de s'encourager de voir la vie. Envoyez-vous les jeunes ici, parce que quand ça vous fait fonctionner, lorsque quelqu'un est pris dans ce cœur, c'est un fonctionnement. Il faut qu'il s'en fasse. C'est quelque chose dont on doit se repartir. Parce que le perfectionnisme nous rend dans ce cas-là. Et il pourrait même nous empêcher d'avancer dans la perfection. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'on est perfectionniste, on se sent que sur nous-mêmes, on n'est pas centré sur Dieu, on est centré sur nous-mêmes, sur ce que nous pensons pouvoir faire de nous-mêmes. Le premier mot que je passe dans la perfection qui nous fait donner le plus tard, parce qu'on ne peut pas être prêt au cours de notre vie de temps, c'est de reconnaître humblement, un, que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, et deux, qu'il nous faut compter sur le Christ pour vivre en nous, pour nous donner sa foi, pour nous donner son courage, pour nous donner sa force. Parce qu'au fond de part, nous, pour ce qui est en l'humilité, avec tout le monde, nous n'avons pas la foi, la force et la courage qu'il faut. Même si on peut courager sur le plan humain, on peut faire on parle de courage aussi d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce que Dieu attend de nous durant notre vie aujourd'hui? Allez voir en 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 4. Et on va lire le verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde ou qu'on nous considère, si vous voulez, comme des serviteurs de Christ, et c'est ce que nous sommes, nous sommes des serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et si je sais ce que ça veut dire, c'est des mots avec lesquels nous sommes familiers actuellement. Donc, il nous faut être des serviteurs, c'est ce que j'ai dit. Serviteurs, on comprend ce que c'est. Mais des dispensateurs de l'histoire de Dieu. Le mot, presque ici, dispensateur, c'est oikonomos. O-I-K-O-N-O-N-O-U-S. Oikonomos. Et d'ailleurs, ça prend un mot français économe. Oikonomos. C'est économe. Et d'ailleurs, pourquoi on est comme ça? Parce que ça a été durant le temps d'être des dispensateurs, d'être des économes, ou d'être des administrateurs de la maison de Dieu. On a dit tantôt qu'on fait partie de la maison de Dieu maintenant. On est les serviteurs de Dieu et on doit être les dispensateurs de sa qualité, de sa façon de vivre. Donc, on doit être des administrateurs de sa maison. Puis, économes, c'est aussi des intendants. L'intendant, c'est une personne chargée d'administrer la maison de la mère. L'intendant, c'est quelqu'un qui administre la maison de la mère. Celui dont il porte la maison de Dieu, c'est quelqu'un qui est plus riche que les riches enfants, parce que c'est Dieu qui gère. Nous faisons partie de sa maison, après que les capitales nous sont ses intendants. Alors nous devons donc être des économes, des intendants fidèles. À accomplir nos responsabilités pour réaliser la volonté de notre Dieu, le maître de la maison. C'est ça. Mais attention, je prends un exemple que je viens de vous expliquer. Nous devons être des serviteurs de Dieu et des dispensateurs de l'histoire de Dieu. Parce que notre façon de vivre, notre façon de comprendre, c'est un mystère pour ceux autour. Mais nous, Dieu lui-même, nous comprenons. Il faut devenir des serviteurs et des intercesseurs de Dieu sur sa maison. Dieu, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé quoi? Parfait? Non. Que chacun soit trouvé fidèle, honnête, fidèles. Mais le mot qui est choisi ici, c'est que chacun de ceux qui sont appelés à faire partie de la maison de Dieu, à être intendant de Dieu, à être représentant de Dieu, qu'il soit trouvé fidèle. Non pas qu'il soit trouvé fidèle, qu'il soit trouvé fidèle. Alors, nous vous d'ailleurs la parabole des talents. Il y a la parabole des talents. On peut y aller Matthieu 25. Le Christ en parle lui-même très clairement, et c'est tellement encourageant. Ça fait un sens du sermon que tu donnes aujourd'hui. Matthieu, chapitre 25, regardez les versets 22 et 23. On ne pas tout. Verset 22 et 23. On sait que le monde qui a donné des talents, et au verset 22 maintenant, celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as donné deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. Et tu arrives avec le travail qu'on a fait, c'est le tout qu'on a fait dessus, avec les talents qu'il nous a donnés. Certains ont plus, d'autres ont moins. Celui qui a de se comparer entre lui, il est meilleur que l'autre. Celui qui a fait, c'est lui, c'est lui qui nous a donné. Verset 23, son maître lui dit, c'est Dieu. Bon et fidèle serviteur. Vous voyez? Bon et fidèle, il faut tout faire. Il est fidèle dans ce qui a été confié. Tu as été fidèle en toutes choses, je te confierai beaucoup. Rends-toi dans la foi de ma vie. Formidable, c'est qui encore l'objectif que tu as fait pour ce nous et nous montre qu'on suit et y arriver. Être fidèle à Dieu, ça c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi la manière chrétienne de vivre, simplement? C'est continuer la faire. Il y a des états encore mieux, vous demandez son aide pour trouver des moyens de s'améliorer. C'est faire de son mieux avec l'aide de Dieu, mais graduellement, progressivement, avec l'aide, non pas de façon nonchalante. C'est d'avoir l'esprit et en charge de Jésus de toute notre force. Et c'est lui notre force, comme nous-mêmes, à faire partie de la force. C'est aussi de continuer à être disposé à tout continuer, dans tous les aspects de notre vie, pour devenir meilleur. Et ça, vous pouvez voir ici, c'est ce que je vous pouvez aller voir, c'est parce que donc, il va compléter les yeux, d'abord, c'est parce que je vous donne maintenant ce que Dieu dit ici. Ce que Dieu attend de toi au homme, c'est que tu vas humblement avec ton Dieu, que tu pratiques la justice. Je vais vous le passer pour vous donner exactement ce que je fais. Le passer au complet. Il se trouve que le verset 8. Voilà. Et puis on s'en fait connaître au homme ce qui est bien. Dieu nous a fait connaître. On s'en fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce n'est pas mieux de même de toi. C'est que tu pratiques la justice. Tu mets ses lois en application de la foi. Que tu aimes la miséricorde. Toi aussi, tu connais bien aujourd'hui en tant que comme Dieu a été miséricordieux avec toi et comme il est en toi. Et que tu mens humblement avec ton Dieu en sachant que toute ta force nécessaire est ta disposition et que ta disposition mène vraiment de Dieu. Voilà. Être fidèle à Dieu dans ce qu'il veut, c'est aussi nous efforcer de prier Dieu comme le Christ se faisait. Comme le Christ se faisait. Ça, c'est d'être fidèle à Dieu. Et c'est d'écouter Dieu nous parler chaque jour, en revoyant nos notes de sermon, en étudiant la Bible, en lisant les articles que l'Église a à sa disposition, en écoutant les sermons, en écoutant Dieu nous parler à travers sa Bible chaque jour. C'est ça, être fidèle à Dieu. Et c'est aussi s'accommoder avec les autres le plus possible quand il y a la santé ou quand c'est possible en dehors de la santé. Rapportez-vous à Hébreu, chapitre 10, s'il vous plaît. Hébreu, chapitre 10, où il en est question. Hébreu, chapitre 10, on va lire les versets 23 à 25. Ça fait partie d'être fidèle à Dieu. Hébreu 10, verset 23. Retenons fermement, c'est encore la fidélité, retenons fermement la profession de notre espérance. On est en partie, parce que Dieu a fait ce qu'on a. Et c'est ce que Dieu te dit, c'est ce qui est important, c'est pas autre chose. Dans la vie, Crede, quindi avrai nuovo, potrebbe volerlo, ma ci sia tre, che è inimmaginabile, che è un gran po' inimmaginabile, che ci racconta, fermi, ci danno, la protezione della prosperità, con la storia che ci sono, che faccio qui, ma la condizione è solo per noi, se tutti i giochi non c'è, i primi, ci danno, quindi tanto è la fidelità, quindi, allora se potete concludere un gioco mio, per la parte, di come si può fare solo a così che danno fidel a non pagare fidel a che mi dà fidel a che mi dà con a fare la tua e dei giochi e a poi per cui che per questo che il fatto si dà con perché non fa sveglio di gente come il giorno forse per le volte non fa le cose a tutti e per ciò che non fa a lui di gente che il giorno da un per uno e si trova e non c'è la con après baptême, nous sommes encore sommés du baptême. Le jour où on est baptisé, on est content. On ne peut pas faire de voix qu'on a reçu parce que c'est à Dieu, parce que tout le monde pense que la langue est tombée, que Dieu s'en existe plus. C'est le jour 1 de notre vie éternelle, parce qu'on reçoit après ça, par la conscience des mains, la lumière, un dégoût dont il est fait. Il s'est interpellé. C'est une journée formidable. Mais nous sommes encore formés. En fait, on est du nord pour le 9-9-9-9-9-9-9. Et c'est pour ça que nous, notre journée éternelle, le combat est possédé, au contraire, est complètement. Il peut être encore plus exigeant qu'auparavant. Ça fait partie de. Et c'est comme ça, parce qu'à ce moment-là, la capacité de plus diriger ses attaques. Parce que le reste du monde, il les a. Mais vous avez dit que le monde entier est séduit par les personnes. Mais ceux qui ne sont plus séduits deviennent sûrs de la personne qui veut nous partir, qui veut que nous nous séduisions. Au moment de la fin, on est encore en mort. Et là, notre combat continue. On vient toujours à ce moment-là d'être engendré dans le ventre de notre mort, dans le ventre de l'Église. Parce que c'est ce qui nous place dans l'Église, lorsqu'on est baptisé. Alors, au moment de notre mort, on est engendré dans le ventre de notre mort. Et nous devons ensuite nous développer pour ressembler de plus en plus à la parole, pour ressembler de plus en plus à Dieu. Et ça aussi, ça se fait dans le temps, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais on est sur forme embryonnaire, si vous voulez. C'est comme une embryon dans le ventre d'une femme, dans le ventre de sa mère. Au début, c'est un paquet de cellules vivantes qui ne ressemblent qu'à rien et qui ne ressemblent pas encore à un être humain. C'est vrai qu'au début, la grossesse, quand il y a cette fécondation, ce qui existe, ce sont des cellules vivantes qui se multiplient. Mais il n'y a pas de forme, il n'y a pas encore de forme. Mais l'être humain est là, et il grandit. Et il doit grandir pendant un bon bout de temps avant de commencer à ressembler à une forme humaine. C'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Il y a tout le développement qui doit venir ensuite. Et vous savez, dans ce sens-là, l'Église a la responsabilité de nous nourrir, de nous aider à grandir. Et c'est pour ça qu'il est mentionné. Le groupe a mis dans son église des apports, des docteurs, des docteurs, des ministres, etc. pour l'enseignement des saints, pour que nous devenions de la terre comme le peuple. Premier parce que ça vous rappelle. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. On nous aussi de verset 11. En parlant de Christ, il est dit ici, et là je parle de l'Église, c'est la responsabilité de prendre soin des petits que Dieu a fait, des enfants que Dieu a fait à son Église. Et il, l'Église, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs ou ministres pasteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, de ce que Dieu met à part actuellement pour les préparer pour ce qui est fermé. C'est son plan. Alors, Dieu a établi une église avec une organisation précise et hiérarchique pour enseigner, pour nourrir, pour guider, pour corriger, et même d'église pour nous soutenir ce que le ministère doit faire. Pourquoi? En vue de leur ministère et de l'édification du corps du Christ et la maison de Dieu, pour que la maison de Dieu développe, pour que ceux qui font partie de la maison de Dieu développent le caractère de Dieu. Alors, voici ici la façon de s'appeler Dieu, procède pour se s'appeler. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'époque d'un saint à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez, là aussi, il y a une progression qui va aller jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est seulement que l'Église doit être, doit vraiment aller dans la stature pour encourager. Pour monter le temps pour contrôler, pour répondre aux questions, pour soulager, pour guider, pour corriger aux besoins qui nous sont chers partout. Verset 15. Verset 15 maintenant. Mais, en reconnaissant la réalité dans l'amour, nous croisons à tous les actes. Voyez-vous, il n'y a pas la croissance, il n'y a pas le développement de l'embryon qui doit être rempli de plus en plus par son corps. pour avoir qui regarde un seul dit qui est le fait de la raisonnée, le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, toute son raison, bien coordonné et formé un solide assemblage, suive son accroissement, par la force de développement du croissant, selon la force qui contient à chacune de ses parties et ses vies humaines dans la même. Tout cela est accompli par le Saint-Esprit. Et il nous montre comment ça fonctionne. Et c'est important qu'on comprenne qu'on voit dans les détails comme c'est fait aujourd'hui, pour voir dans quel contexte nous navigons comme c'est vers quoi on se rapporte. Et ce qui on peut voir comme dit, c'est faire tout le reste du chemin qui nous reste à faire. Le croissance spirituelle se fait dans, comme on l'a dit, progressivement. Elle se fait dans le temps, par l'action du Christ en nous. Si nous sommes progressifs, pour progresser, il ne faut pas s'attendre à ce que ça reste pas seul, comme on a tous attendu dans son intention. Non. Il dit que notre intention de Dieu appartient au Dieu. Il dit à la télévision, ceux qui ont leur cœur. Alors, le croissance spirituel à la fin du Christ en nous, se fait si on est proche du Christ, si on demande son aide, si nous persévérons à faire notre part, même si nous ne sommes pas encore parfaits. Dieu a de profond l'amour d'un Père, mais bien plus que l'amour d'un Père humain. Bien plus que l'amour d'un Père humain tout à Dieu a pour nous, pour chacun de nous, l'amour du Père. Tout puissant et parfait qu'il est. Allez voir dans 1 Jean, et je vous donne juste avant l'Apocalypse, 1 Jean chapitre 3, ça nous dit ceci. Ça nous dit, comme de façon affectueuse en anglais, 1 Jean chapitre 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez-vous, quel ami, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés. Il dit beaucoup ici, là. En fait, qui nous aide d'un amour incroyable que nous appelons en tant que Dieu, nous qui étions ennemis, avant qu'il nous montre sa vérité et avant qu'il travaille avec nous avec patience. Et qu'il continue de travailler avec nous avec patience. Et d'abord, dans cette réflexion, dans cette phrase, tu vois, voyez, c'est l'amour, le Père nous a demandé pour que nous soyons appelés ses enfants. Pour que nous soyons appelés de Dieu en devenir. Et c'est la potentialité que Dieu nous donne pour qu'on aille dans sa famille. Quand vous êtes né dans la famille où vous êtes né en tant qu'être humain, parce que vos parents sont des êtres humains. Et quand nous naîtrons dans la famille de Dieu, nous serons des êtres divins parce que nous naîtrons seulement. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés à l'enfant de Dieu. C'est énorme. Et je me rappelle bien de Jean-Paul, en ce moment, en ce moment, sur ce principe-là, il s'est tellement frappé et secoué par la grandeur de cette compréhension-là. Il était un certain, il a demandé aux évangélistes autour de lui, comme ça, oui, comme c'était la question à faire, de dire aussi les choses qu'il avait pensé comprendre et de le contredire s'il s'était trompé. Mais dans la direction du temps, avant de rendre cette pensée-là publique, c'est drôle. Et je pense que l'Église de Dieu est la seule à annoncer cette parole qui est la grande chose. Dieu est un être divin et il veut que nous devenions des êtres divins à un autre niveau de vie que nous sommes maintenant. Voyez que l'amour de Dieu nous a commencé pour que nous soyons appelés à l'enfant de Dieu. Et nous le sommes, gens de la maison de Dieu. Après, je dis quelque chose ici. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Les gens autour ne pensent pas que vous êtes. Vous trouvez peut-être bizarre de faire ce que vous faites, d'observer le goût, de vous observer, de ne plus manger de fort. Ils ne comprennent pas. Ils voient la différence, mais ils ne comprennent pas parce que ça ne leur est pas donné pour être. Dieu est pas injuste. Ils auront leur chance au moment qu'ils vont entrer dans la vie. Parce que tous les êtres humains auront eu leur chance à la fin de l'histoire. Si le monde ne nous connaît pas, c'est le cas maintenant des gens qui sont du monde, qui ne sont pas chrétiens, qui ne nous connaissent pas, ne savent pas pourquoi on a dit, comme on a dit, ceux qui ne l'ont pas connu, ces gens-là n'ont pas connu Dieu encore, tout simplement. Quand ils connaîtront, ils sauront pourquoi. Vous une chose différemment, que je ne faisais pas, et que vous faisiez une chose différemment. Deux. De ce deux, bien aimé, nous sommes nouveaux de Dieu. Nous sommes informés, nous sommes gloireux de Dieu. Aidez votre esprit pour être capable de vous. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oui, parce que nous sommes encore physiques. On ne peut pas dire que nous sommes totalement spirituels. C'est ça qui fait ici ce que nous serons, ce que nous sommes appelés à devenir, n'a pas encore été manifesté. Il n'a pas été encore manifesté parce qu'on est encore composé de ça et de ça. Nous sommes encore des êtres humains physiques. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ va être, c'est ce que nous savons. Nous savons que lorsque le Christ viendra, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que ce jour-là, nous serons transformés en être totalement spirituel. Ce ne sera pas seulement un défaut de l'éternel que nous aurons, mais nous aurons la vie éternelle au complet. Et nous deviendrons des êtres totalement spirituels, immortels. C'est ce qui est conduit dans la situation ici. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est maintenant. Et tel qu'il est maintenant dans sa forme spirituelle, joyeuse, on ne peut pas le voir maintenant. Mais si on le verra à ce moment-là tel qu'il est, pourquoi? Parce que nous serons amenés à être de même nature que lui. Là, on pourra le voir dans sa nature, parce que nous sommes à son nature. Donc, c'est ça. C'est ça le défi que nous continuons à obtenir. C'est ça le grand but extraordinaire qui doit nous mettre la main de base pour faire tout ce que nous avons à vivre. Moi, ça fait 5 ans que je suis baptisé. Je suis baptisé en 1974. Ça fait 5 ans que je suis baptisé. J'ai travaillé tout ce qui est là. Et je regarde en arrière pour voir ce que j'ai réussi à faire. Il faut le faire parce que ça, ça me sert pour l'âme. Il ne faut pas travailler juste sur les choses qu'on doit accomplir. Parce qu'on entend juste tout, ça devient décourageant. Mais on regarde ce que j'avais de réussir à part. Je vais voir ça. Merci Dieu, tu m'as donné de réussir à telle chose. Tu m'as donné de réussir à telle chose. Il faut le voir. Parce que ça, c'est la feuille de route que j'avais réussi à partir jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'a relâché. Dieu veut qu'on le regarde aussi. Alors, je veux remercier. Oui, je regarde. Je regarde en arrière. Je veux remercier tout le monde. Je veux dire merci à lui. Je veux dire encore. Je vous remercie à tous les jours de la miséricorde qu'il y a eu envers moi dans toutes ces années-là. Chaque jour de ces années-là. Parce que chaque jour, j'ai dû lui demander pardon pour tout ça. Pour le fait que je connaissais que tout ça se passe. Alors, on lui manque aussi. Alors, je vous remercie, je garde mes projets, c'est encore la vie. Mais ça va loin d'être parfait. Et je vais devoir continuer à m'attendre de lui montrer des choses que j'ai changées. Et de m'aider à changer quelque chose qui sont difficiles encore à changer. C'est ça. Ça, c'est notre chemin de l'identité vers la perception. Donc, je vois ce que vous dites. Et comme une chose pour vous, nous devons être fidèles à notre engagement. Regardez maintenant le verset 3 sur ce que nous avons fait. Dans le verset 3, là où nous étions. Tout en ce que cette espérance en nous se signifie. Comme nous-mêmes, vous voyez, si je dis que l'espérance de la vie éternelle ne se purifie, c'est parce qu'il continue à se purifier. Il ne devient pas complètement pur d'un coup, mais il continue à se purifier pour changer les choses qui ont changé. C'est encore notre progression dans le temps, notre dignité, notre ténacité, notre persévérance. Alors, il doit continuer de la perception. Mais, et termine là-dessus, la perfection parfaite, la perfection finale, ne viendra pas de moi non plus. La perfection totale et la perfection finale ne viendra pas de moi non plus. Voyez ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet-là de façon très claire et tellement encourageante. À deux que l'on gagne dans le fait, le monde de la société du Christ. Ce passage que j'aime beaucoup et qui m'encourage également. Énormément, que j'ai besoin de revoir de ton travail. Philippiens, chapitre 5. La perfection finale ne vient donc pas de moi. Et c'est un vrai passage que je vais compter sur le Christ. sono più efficace della musica metrica. Si può credere che si fa così, che si può credere che celui che ha commencé en vous cette bonne œuvre, Dieu a commencé en vous une œuvre qui nous a amené à terme. Moi, je suis convaincu que celui, c'est-à-dire Dieu, qui a commencé en vous, lorsque vous avez l'œuvre qui est en train d'accomplir avec vous, en vous donnant sa force pour vous rendre capable d'y arriver graduellement, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors voyez-vous, juste pour ce jour-là, que j'appelle un jour béni, qui est devant nous, où Dieu va nous rendre parfait comme nous et parfait, on doit nous continuer de tout cœur à être trouvés fidèles.